Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
One day, one restaurant in Paris.
Ainsi, dans tous les quartiers de Paris et dans tous les cafés célèbres, vous atterrirez infailliblement à la terrasse d'un Auvergnat, que ce soit le Café de Fleurs, la Coupole, le Pavillon Dauphine, chez Lip et chez Dupont.
À Paris même, en dépit de la mode des pubs et des drugstores, près de 120 cafés disparaissent chaque année.
Un îlot alsacien, au cœur de Paris. Créé en 1932, la brasserie a fait son temps. Changement de style, non plus cette fois à base d'Alsace, mais de cuisine française traditionnelle. Chez Génie deviendra un bouillon, avec des prix plus attractifs.
We are at the Bouillon République.
On va déguster, dresse le couvert au Bouillon République. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Nous sommes donc en public au Bouillon République, un lieu parisien emblématique transformé en 2021 en brasserie populaire par les frères Pierre et Guillaume Moussier, que je remercie chaleureusement pour leur accueil. Nous allons célébrer ensemble en direct Paris et sa gastronomie, le terroir d'Île-de-France, les recettes parigotes, l'histoire du restaurant et des bouillons justement, les personnages célèbres qui ont façonné l'imaginaire culinaire de la capitale. Ce sont autant de thèmes que nous abordons dans notre nouveau volume de la collection On va déguster. Après, on va déguster la France et on va déguster l'Italie. Voici On va déguster Paris, l'encyclopée guide qui dévore la capitale à pleines dents, coédité par Marabout et évidemment les éditions de Radio France. C'est la fête aujourd'hui, il y a un public chaud bouillant, ça on l'a vu. Il va y avoir dans quelques instants un buffet typiquement parisien avec des spécialités parigotes. Il y aura aussi un apéro dédicace ouvert à tous juste après l'émission vers midi et pendant l'après-midi. Ici même d'ailleurs, hein, au Bouillon République. Et puis il y aura également, attention, concentration, 6 livres dédicacés à gagner dans la salle, mais également, on ne vous oublie pas à la maison, pour les auditeurs et les auditrices derrière leur poste de radio, à condition de répondre évidemment à 2 questions de culture culinaire que nous allons vous poser dans le courant de cette émission. Pour plonger dans les marmites, nos invités aujourd'hui, Stéphane Solier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez piloté toutes les pages culture de notre livre « On va déguster Paris ». Vous êtes notre spécialiste littérature dans l'émission, professeur de lettres à Paris, hein, lycée Janson de Sailly, c'est ça. Un avant-goût du menu qui nous attend ?
Eh bien, nous allons croquer Paris par le quignon, aller sur les traces de quelques-uns de ses chantres en littérature, en chansons, et plonger dans les marmites de son histoire.
Eh oui, on va parler histoire, recettes évidemment, et pour parler recettes, nous sommes également accompagnés de Daniel Udry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef exécutif des Bouillons Pigalle et République. Vous êtes également, vous pilotez hein, les cuisines avec Clément Chicard notamment, et vous avez écrit ce livre. C'est toute une bande, hein, toute la bande des Bouillons Pigalle et République, c'est ça. Bouillons, les recettes cultes des bouillons parisiens, un livre paru en 2021 aux éditions Marabout d'ailleurs. Et vous allez nous raconter quelques recettes iconiques, mais également économiques. C'est important que vous servez dans les bouillons. Bon, allez, on va pas jouer le suspense trop longtemps. Il y aura notamment de l'œuf mayo, hein, qui est l'emblème.
Tout à fait. L'emblème est effectivement porté par un de nos chefs, Clément, quoi. Et effectivement, qui nous a fait rayonner un peu partout.
On peut même dire dans le monde, parce que votre œuf mayo est champion du monde depuis 2019, on peut le dire. Voilà. Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, j'accueille notre chroniqueuse reportrice Zazie Tavitian et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Salut les copains.
Salut.
Salut à tous.
Zazie.
Alors moi, je vais vous parler d'une cantine chère à mon cœur, qui montre aussi la diversité culturelle de la cuisine parisienne.
Absolument. Paris est aussi une ville monde. Antoine.
Les Parisiens et même ceux qui traversent Paris ont remarqué qu'il y a des boutiques à peu près partout avec des gens avec un grand sourire à l'intérieur et plein de bouteilles. Ça s'appelle les néo-cavistes.
Et voilà, et vous allez décrypter cette tendance pour nous. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission en direct avec Sandrine Bréchaud, Nicolas Mathias, Lucien Lefebvre, Jérôme Casamayou, Fabrice Rivaud pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale. Comme d'habitude, tous les contenus de notre émission, nos recettes, hein, les recettes de notre chef notamment, et cette fameuse recette d'œuf mayo, nos chroniques, nos infos pratiques, nos podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inimitable. Ça paraît être juste matériel. Mais non. Non, mais la baguette représente ça.
Vous aurez sans doute reconnu le président Macron vantant le classement de la baguette française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était lors de sa visite d'État aux États-Unis le 30 novembre dernier à l'ambassade de France à Washington. Alors Stéphane Sollier, c'est officiellement la, et j'ouvre les guillemets, baguette française qui vient d'être classée à l'UNESCO. Pourquoi n'a-t-on pas classé la baguette parisienne? Car après tout, c'est bien un pain d'extraction d'origine parisienne.
Et oui, mais la baguette, en fait, depuis, elle est née grosso modo au début du XXe siècle. On pourra parler de sa longue histoire parisienne, mais en tout cas, elle est née en tant que baguette au début du XXe siècle. Et dès les années 20, on a déjà l'association de la baguette dans des journaux américains. Notre historien Loïc Bienassis nous a même trouvé des extraits de 1928 d'un journal de San Francisco qui associe la baguette à la France et pas seulement à Paris. Et elle apparaît très vite dans le cinéma comme un symbole de la France. On pense à au film Ninotchka d'Ernest Lubitsch en 1939 où Greta Garbo est déjà placée dans une sorte de décor avec des baguettes. On pense à Un Américain à Paris, Irma la Douce. Bref, la baguette devient très vite un symbole de la France.
Dans la photographie aussi, hein.
Et dans la photographie.
Des photographies célèbres qui représentent évidemment le Français avec sa baguette sous le bras, éventuellement le béret.
Et ben Willy Ronis par exemple, le petit Paris. Douaneau, qui représente vraiment le symbole, la baguette comme symbole de la France plus que de Paris. Mais elle est née à Paris.
Elle est née à Paris et c'était même un symbole entre la fin du 19e et le début du 20e, période pendant laquelle elle a été inventée, un grand symbole de modernité boulangère.
Et oui, parce qu'en fait, déjà, Paris, quand on regarde l'histoire de son histoire d'amour avec le pain, les Parisiens ont toujours voulu aller vers une sorte de raffinement et le pain le plus raffiné avec des farines raffinées, donc farine blanche. Et en même temps, depuis le 18e siècle, on a des témoignages d'un amour des Parisiens pour les pains longs. Pain long qui a l'avantage en fait d'offrir une plus grande surface de croûte. Et les Parisiens aiment plus la croûte que la mie.
Et puis ce pain était aussi très transportable, hein. C'était quelque chose de pratique, on le mettait sous le bras.
Exactement, alors ça a fait naître des légendes, hein. On connaît peut-être ces légendes qui ont voulu que la baguette soit née pour que les soldats napoléoniens puissent porter leur pain dans leur gibecière de façon assez facile.
Mais ça c'est de la légende. Hein.
C'est de la légende. Mais en tout cas, on a une longue histoire du pain long, à Paris. Et j'ai eu la surprise de découvrir pour le livre... Je suis allé visiter la maison de Zola à Médan, et dans la cuisine de Zola, ils ont retrouvé un vitrail représentant un personnage de l'Assommoir qui s'appelle Mébotte, qui est l'incarnation de la gourmandise dans l'Assommoir et qui porte un long pain, et on peut encore le voir ce vitrail dans la cuisine de Zola.
La parisianité de la baguette ne fait donc pas de doute. Il paraît qu'on ne sert pas de baguette au Bouillon République, chef Udry.
Pas de baguette, c'est un choix délibéré. On a préféré travailler avec notre ami Jean-Luc Pougeran.
Ça fait excellent boulanger parisien quand même.
Tout à fait. C'est vrai que moi, même à mon arrivée à Paris, à l'époque, je passais devant sa boutique qu'il avait tous les jours en allant travailler sur les Invalides dans un restaurant. Depuis, on est amis et on collabore et on échange et voilà.
Donc pain de campagne, j'imagine qu'il y a aussi derrière ce choix l'idée que le pain de campagne rassit moins vite que la baguette, hein.
Exactement.
Donc
exactement.
Moins de déchets.
Tout à fait, moins de déchets. C'est de toute façon c'est une des caractéristiques du bouillon, c'est d'essayer voilà de ne pas avoir de déchets, même si par hasard on a un pain un peu sec, évidemment il finit dans la soupe à l'oignon.
Voilà. C'est ouais. Ça, recycler. Vous allez nous expliquer toute votre stratégie très intéressante pour jeter le moins possible et faire en sorte que vos approvisionnements soient extrêmement locaux, en circuit court. Saluons juste notre historien maison, hein, Loïc Bienassis, vous l'avez cité Stéphane, qui a activement participé, et oui, à la rédaction du dossier de candidature de la baguette française. Signalons quand même que ce classement fait pas non plus l'unanimité. On va pas trop s'étaler, mais il est vrai qu'il y a un mouvement anti-baguette qui se profile. La baguette
française, c'est un peu du jacobinisme alimentaire. Elle s'est imposée dans la France entière, y compris dans nos outre-mer, en Corse, partout on mange de la baguette, mais elle a un peu tué quand même la diversité de nos traditions boulangères.
Oui, et puis il y a aussi des boulangers très regardants sur le choix des farines, et c'est vrai que la farine raffinée de la baguette
est moins nutritive.
Après, comme je l'expliquais, c'est vrai que la baguette est aussi un symbole, et donc on mange et on a promu aussi un symbole et pas seulement la qualité de la farine.
Qui veut gagner un livre dans le public ? Tout le monde ? Attention, cher public, mais également chers auditeurs et auditrices à la maison, vous allez répondre à une question qui va vous permettre de gagner 3 livres. On va déguster Paris dédicacé, 1 dans la salle, 2 à la maison. C'est une question de rapidité. Il va falloir lever la main pour nous livrer une réponse au micro. Et pour ceux qui sont à la maison, eh bien écoutez, on va sélectionner les 2 auditeurs ou auditrices les plus rapides sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com. On veut évidemment dans ce mail la bonne réponse, mais on veut également votre adresse postale. On ne validera pas, sinon on peut pas vous envoyer le bouquin, on ne validera pas les mails sans adresse postale. Et celui qui tient votre destin en main n'est autre que Charles Patin Okoun, journaliste gastronomique, rédacteur en chef d'ailleurs aussi de notre émission Très Très Bon sur Paris Première depuis 10 ans. Et vous avez piloté avec nous, cher Charles, dans cette vaste encyclopédie, toute la partie guide, plus de 2000 adresses dans le bouquin. Autant dire qu'il y a eu beaucoup de boulot avec toutes nos équipes de journalistes. Charles, une question, à vous de jouer et de nous faire jouer.
Merci François-Régis. J'aurais bien posé une question sur l'Angleterre à Paris, mais ils ont
suffisamment
dégusté hier.
Hein. Oh, c'est vache. Bon, je vous ai une petite question sur le sandwich. Non, on les aime, nos amis d'Outre-Manche.
Et on les embrasse bien fort.
Oh, l'hypocrite.
Je vous ai mitonné une petite tambouille avec ratatouille. Alors, Hollywood a souvent mis les plats dans les grands et dans l'écran. À ce titre, Ratatouille, le film d'animation des studios Pixar, sorti en 2007, est une véritable réussite. Mais comment se prénomme le petit rat cuisinier, héros du film?
Ah, je vois des mains se lever, une forêt de mains.
Rémi.
Bravo madame.
Et c'est une bonne réponse, bravo.
Comment vous vous appelez?
Pardon?
Comment vous vous appelez?
Tiffaine.
Vous nous venez d'où?
Je suis parisienne.
Très bien, parisienne ou parisienne?
Vincennes.
Ah, Vincennes. Oui, donc on peut parler d'une authentique parisienne, effectivement, et ratatouille, ça vous rappelle de bons souvenirs?
Oui, ouais.
Vous vous souvenez donc que le petit rat portait un prénom?
Oui.
Moi, j'ai vu 3 fois le film, je ne me souvenais pas de Rémi. En tout cas, bravo madame, vous avez gagné un livre dédicacé. On va se faire un plaisir de le signer pour vous. Alors, comme je le disais, nous sommes au Bouillon République. Et Stéphane Saulier, ça montre cet établissement. Alors, il est vraiment, il cristallise tous les apports des provinciaux, puisque on est dans un lieu qui, originellement, était une brasserie alsacienne. Merci l'Alsace. Et on est dans ce lieu qui a été transformé en bouillon par des frères Auvergnat, Pierre et Guillaume Moussier, dans une tradition des Auvergnats qui montent à Paris. Alors ils sont cantalous, pour être très précis. Donc voilà, là on est dans une province à Paris.
On est dans un symbole.
Dans 2 provinces.
Oui, on est dans un symbole de cette nourriture de Paris par les provinciaux. Je sais pas par quoi commencer. On pourrait commencer par l'histoire des bouillons. On pourrait commencer par les brasseries alsaciennes. Bah,
l'histoire des bouillons. Rappelez-nous justement ce que c'est qu'un bouillon, puisqu'évidemment ça ne date pas d'hier.
Non, ça ne date pas d'hier. Le premier à avoir allez, on va essayer de simplifier, mais en tout cas, l'un des premiers à avoir inauguré des bouillons s'appelle Duval, hein, c'est la fameuse dynastie Duval, qui était un boucher, Baptiste Adolphe Duval, boucher des Halles, et qui a ouvert un établissement à la moitié du 19e, 1855, un immense établissement, puis plusieurs dizaines d'établissements, en 1878, 16 succursales, donc un énorme succès dont le principe était de mettre à disposition des clients une nourriture simple, de qualité, parce que les Duval ont véritablement institué un système rapport qualité-prix, bien sûr, une cuisine bourgeoise en portions adaptées à un mangeur individuel.
Avec d'ailleurs, ça s'appelle pas bouillon pour rien. Hein. Il y avait tout ce qui était bouillon autour des viandes, des carcasses.
Autour des viandes,
une
exactement.
Façon de, une façon de recycler les os et les carcasses.
Exactement. Et puis d'ailleurs, le bouillon restaurant, hein, bouillon restaurant, parce que ça restaure le corps, c'était sain. Et évidemment, des viandes de qualité, puisqu'ils étaient bouchés, donc il y avait un souci de la qualité des produits, un souci de l'hygiène. Puisque il y avait une grande propreté des lieux, un service fait par des bonnes de chez Duval qui avaient un uniforme extrêmement rigoureux et une organisation très stricte puisqu'on entrait dans les bouillons avec un carton où on pouvait cocher les différents produits, les plats au menu qui étaient ensuite donnés à la caisse et qui ensuite étaient restitués à la sortie. Donc il y avait vraiment tout un système d'efficacité et un souci de la qualité. Pas forcément pour un, attention, on a l'idée d'un d'une clientèle pauvre. C'était plutôt les classes moyennes, des employés, l'aristocratie de des ouvriers qui venaient souvent au bouillon et pas forcément une clientèle très pauvre.
Dans des décors d'ailleurs assez fastueux. En 1878, il y avait à Paris 16 succursales de Bouillon Duval dans Paris. Et en comptant la restauration de l'exposition universelle, hein, tout le service de restauration qu'il y a eu autour de cet événement, les bouillons Duval auraient servi cette année-là, 1878, 5,3 millions de repas. Ça fait rêver, Daniel Udry, non ?
Ça fait rêver. C'est vrai que les chiffres, c'est une caractéristique des bouillons. On est obligé de calculer, de programmer les cuissons de nuit, de jour. Effectivement, les chiffres font partie intégrante de notre succès.
Et vous-même, vous envoyez combien de repas dans un établissement comme ici, avec combien de couverts déjà ?
Il y a 450 places assises. On envoie, ça peut aller de 1000 à 2000 couverts par jour, les très grosses journées, quoi.
Et vous réussissez à résoudre l'équation difficile de la qualité en quantité.
C'est ça, tout à fait. On a été obligé de réfléchir à des techniques de cuisson. En fait, on produit énormément la nuit. On a aujourd'hui des fours programmables et les cuissons de nuit sont en tout cas un élément important de notre qualité.
Dans un instant, on va évoquer avec vous la recette emblème, j'ai envie de dire totémique, des bouillons Pigalle et République. C'est l'œuf maillot. Il va pas tarder à faire son apparition d'ailleurs. Hein. J'espère que vous avez un peu faim, hein, dans le public. Qui a déjà goûté l'œuf maillot du bouillon Pigalle République? Ah, oui, il y a des habitués. D'accord. Vous touchez Paris et la France entière. Et c'est ça qui est intéressant. À prix modéré, œuf maillot au bouillon République et bouillon Pigalle, c'est 2,50 €. Et encore, le prix, vous avez été obligé de l'augmenter un peu.
Exactement. On est obligé de l'augmenter un peu. En tout cas, les caractéristiques les composantes de l'œuf ont augmenté fortement ces dernières années entre l'œuf, la moutarde, l'huile. Et voilà, on a été obligé d'augmenter légèrement le produit en gardant une qualité optimale.
Et vous réussissez tout de même à proposer un prix qu'on peut toujours considérer comme modique. Paris a de l'appétit sur France Inter.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la mastoche a le sien. On y cause en argomuche, et Pantin se dit pantruche, mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi, j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites, pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie.
Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances en Bretagne ou en Provence.
Rien ne vaut l'heure de Paris.
Et allez donc, en voilà ritournelle
de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles.
On se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu.
On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays.
La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris.
Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée le long des Champs-Élysées et comprennent que Paris
restera quoi qu'il advienne la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine par le cœur et par l'esprit.
Et allez donc, en voilà une tournelle
de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles dans le genre.
Qui a deviné dans la salle les interprètes de cette chanson? Monsieur.
Bonjour. Deux moustachus géniaux du cinéma français, Marielle et Rochefort.
Bravo! Et c'est Paris jadis, extrait du film de... Vous connaissez l'origine de cette chanson?
Un Tavernier.
Bravo! Un film de Bertrand Tavernier, Des enfants gâtés, 1977. Monsieur au premier rang, vous vous prénommez comment?
Jean-Pierre.
Et vous avez... Ah ben voilà, Marielle. Et vous avez de la culture. Un grand merci, Paris jadis de Rochefort et Marielle. Et Paris jadis... Dans les assiettes qui circulent dans notre public, voilà, le Paris jadis dans l'assiette, ça pourrait donner un œuf maillot, hein, Daniel Udry.
Ça peut
un
donner
œuf mayonnaise.
Tout à fait.
Alors, racontez-nous.
L'œuf maillot.
Peut-être pas l'histoire de l'œuf maillot. Là, il y a notre Monsieur Culture pour ça, mais en tout cas, votre recette, qu'est-ce qui fait son succès?
La particularité, c'est que à l'ouverture du Bouillon Pigalle, Pierre Moussier nous demandait, tiens, qu'est-ce qu'on va faire un œuf maillot? Ok, mais des œufs maillots, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme touche, un peu comme particularité à l'œuf maillot? Et on se rappelait, enfin, je sais que voilà, quand j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique, il y avait des conditions qui étaient très très chaudes. Ma mère versait toujours un vinaigre chaud à la fin du montage de la mayonnaise.
Et pourquoi?
Et en fait, ça conservait en tout cas au niveau des jaunes, et ça permettait de dissoudre le sel et le poivre. Et en fait, c'est vrai que cette petite acidité, c'est ce qui effectivement nous donne une particularité, et c'est ce qui plaît aussi aujourd'hui. Hein. C'est voilà, il y a la cuisson de l'œuf et effectivement la mayonnaise.
L'œuf maillot du Bouillon Pigalle, qui avait été exécuté par le chef Clément Chicard, a remporté le mardi 3 juin 2019 le championnat du monde de l'œuf maillot organisé par l'ASOM, qui est l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Et l'œuf maillot est un indéboulonnable de la carte. Combien vous en envoyez par jour ici?
Ici, on en envoie 500 portions, entre 500 et 700 portions. Et comment on sert 3 demi-œufs mayonnaise? Je vous laisse faire le calcul, c'est à peu près 750 œufs à 1000 œufs par jour.
C'est ça, et c'est des œufs en plus, vous essayez vraiment, là il paraît que vous avez monté un partenariat avec une ferme locale pour faire en sorte que vos œufs viennent d'Île-de-France.
Exactement, ça vient du 77, et on essaye de plus en plus d'avoir des partenariats comme ceci. Là on va essayer de développer aussi un partenariat avec une ferme qui fait un lait dans le 78. La majorité des ingrédients, on essaye en tout cas de les avoir avec des approvisionnements de proximité. On a un cochon du Perche là qui est exceptionnel, que des amis restaurateurs nous ont conseillé. Voilà, on travaille dans le cochon un peu tout. C'est l'épaule de cochon qui est pas cher, qui cuit la nuit, les os qui nous servent à faire le jus.
Voilà. Et voilà.
On retombe dans le bouillon d'origine. Duval.
C'est ça, tous les processus pour rationaliser en fait ces nourritures en très grande quantité. Revenons à votre œuf maillot, il y a évidemment la cuisson, il faut un bon œuf, mais ça vous l'avez en plein air. Oui. Il faut également une cuisson, quand on la pousse un peu trop, le jaune en général devient gris et sableux en bouche.
Tout à fait.
Vous faites attention justement pour obtenir un jaune avec justement une belle couleur orangée et une texture grasse.
Oui, tout à fait. Alors donc on a le temps de cuisson hein, qui est de 9 à 10 minutes. Et par contre, surtout, c'est le refroidissement. En fait, Nous, on cuit en très grosse quantité. Pour avoir un refroidissement rapide, on a des gros contenants avec de l'eau froide et plein de glaçons.
Ça, c'est important. Sinon, l'œuf continue à cuire. Hein.
Exactement. Voilà. Il faut stopper rapidement la cuisson.
Vous avez investi dans une, attention, machine à écaler, tout japonaise.
Alors, à la base, apparemment, c'est un brevet français qui n'a pas trouvé vraiment preneur ici et qui est parti au Japon. Et donc, on a commandé la machine à écaler les œufs au Japon et elle nous est revenue au bout de 2 mois de fabrication. On a encore des petits soucis parce qu'il faut vraiment ajuster, effectivement, par rapport au calibre de l'œuf et la fraîcheur de l'œuf. Mais on est sur la bonne voie et ça fonctionne plutôt bien.
Parce que écaler 1000 œufs, effectivement, c'est de la... 1000 œufs. Hein. On va commencer par parler français correctement. Ça, effectivement, ce serait beaucoup de main-d'œuvre.
À la base, c'est ce qu'on faisait. C'était 1000 œufs comme ça, à la main, quoi. Et c'est vrai que ça demande du temps.
Qui l'a goûté dans le public, cet œuf maillot? Un petit commentaire? Ah, tout le monde. Madame, avec le pull rouge, vous en pensez quoi?
Bonjour, très très bon, délicieux.
Délicieux, vous aimez la texture de la maillot?
Ah oui, très bonne. Moi qu'on mange jamais, je suis ravie.
Et bien voilà, premier compliment attrapé comme ça au vol. Stéphane Solier, vous nous confirmez les origines parisiennes de l'œuf maillot?
Alors, origine, c'est assez discuté parce que c'est un plat tellement simple qu'il est difficile de remonter son histoire. Mais en tout cas, moi je vais m'appuyer sur le narrateur d'un roman un peu loufoque de 2010 qui s'appelle Le Retour du Général de Benoît Dutertre.
Eh oui.
Et l'intrigue commence par l'horreur que ressent le narrateur à découvrir que son œuf maillot en fait est un peu traficoté par des
subterfuges
un peu industriels. Et il dit juste « Au fil des ans, j'ai développé une véritable doctrine sur cette entrée de bistrot. Après maintes lectures et conversations, je sais par exemple qu'un œuf mayonnaise sur une table parisienne comporte normalement 3 moitiés d'œuf dur, ni plus ni moins. Je soutiens également que le véritable œuf mayonnaise dédaigne ces ajouts dont raffolent les bistrotiers amateurs, feuilles de laitue, salade de pommes de terre, quand ce n'est pas une rondelle de tomate ou d'absurde carotte râpée.
Oula !
Le vrai miracle tient tout entier dans ce mélange d'œufs durs et de sauce onctueuse, elle-même constituée de jaune d'œuf, de moutarde, d'huile, de sel et de poivre. Rien de plus. C'est ainsi, et pas autrement, que cet alliage de gras et parfumé reste l'un des symboles de Paris.
Bon, on est d'accord, hein? Même s'il y a dans l'œuf maillot du Bouillon République une petite garniture végétale, mais qui est assez minimaliste.
Tout à fait, ouais. C'est vraiment léger. Ça nous sert juste un peu à caler les œufs lors du transport et du service, quoi.
C'est ça. La recette de l'œuf maillot du Bouillon République, qui est donc l'œuf maillot champion du monde depuis 2019, à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster, puisque le Bouillon République nous a fait la gentillesse de nous donner la recette que chacun peut pratiquer. C'est populaire, c'est pas trop cher, à la maison.
Tout à fait.
Paris fut, on l'a dit, la terre d'accueil des provinciaux, mais également la terre d'accueil pour les cuisines du monde entier. Alors il est vrai que dans notre livre, on a recensé 400 adresses de 64 communautés différentes. Les premiers répertoires étrangers qui se sont manifestés à Paris, Stéphane Solier, c'était quand?
Alors en fait, c'est vrai que le restaurant naît à la fin du XVIIIe siècle. Et dans son évolution première, en fait, il est très centro-parisianisé, on va dire. Mais nous avons découvert, en travaillant sur ce livre, que on a découvert des menus. Petit à petit, il y a eu une appétence des Parisiens pour deux cuisines un peu étrangères. La cuisine italienne et, petit clin d'œil à l'actualité, la cuisine anglaise.
Oui.
Et il y avait vraiment un appétit pour le roast beef, pour des menus qui mettaient en avant...
Jambon d'York,
l'assiette
anglaise.
Exactement, la cuisine anglaise. Ça, c'est au milieu du 19e à peu près. En fait, très vite, ça va s'accélérer. C'est la tenue des expositions universelles et expositions coloniales qui va ouvrir les yeux des Parisiens et des restaurants parisiens sur les spécialités du monde. Des premiers restaurants qui vont proposer des couscous, etc., vont prendre place fin 19e et surtout début 20e.
Et c'est ainsi que la cuisine, la gastronomie parisienne, au-delà de ses traditions, hein, on a parlé de la baguette, de l'œuf maillot, est devenue une véritable melting popote. Zazie, c'est à nous, puisque on va rendre visite avec vous à une communauté en particulier qui est bien enracinée, bien implantée à Paris et qui fait de surcroît écho à votre mémoire familiale.
On va déguster.
sur France Inter.
Zazie Tavitian, vous êtes rendue pas très loin d'ici, rue Bleue. Paris 9e.
Oui, je suis allée dans un endroit que j'aime beaucoup, François-Régis. C'est la cantine de la Maison de la Culture Arménienne dans le 9e arrondissement de Paris. C'est une adresse dont vous parlez dans votre livre, dans le chapitre Ville-Monde. Et c'est un chapitre qui m'a particulièrement plu car il montre bien que la richesse et la diversité de la gastronomie parisienne se sont construites aussi au fil des ans grâce à toutes les vagues d'immigration.
Et donc, Zazie, vous avez décidé de faire votre pause en Arménie.
Oui, alors c'est un peu orienté, hein, vous le savez, mon nom de famille c'est Tavitian, donc c'est un nom arménien. Et mon histoire avec Paris, c'est aussi une histoire d'immigration. Mes arrière-grands-parents paternels, Pegoui et Noubar, sont venus vivre à Paris dans les années 20. Ils venaient de Turquie et ils n'ont jamais vécu dans l'Arménie telle qu'on la connaît actuellement. Alors je crois que, comme pour de nombreux Arméniens et plus largement d'immigrés, la cuisine c'était une façon de se sentir chez eux et de garder un lien avec leur pays de naissance. Et se sentir chez soi, c'est vraiment l'effet que fait cette cantine à beaucoup de personnes d'origine arménienne, mais pas seulement. Vraiment, tout le monde se sent bien ici. Et il faut dire qu'on est très bien accueillis par Chinar Arakelian. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle s'occupe de la cantine avec son mari Mamikon, qui lui est en cuisine. Alors moi, j'ai été les rencontrer et j'ai demandé à Chinar de me parler de son histoire. Elle est née en Géorgie, mais comme elle me le raconte, l'Arménie, c'est vraiment son pays de cœur.
Toutes les Arméniens, je pense, il y a deux parents paternels. C'est l'Arménie. Maternelle, c'est où on est né.
Vous avez immigré ici en France et vous avez tout de suite travaillé dans la restauration?
Non, c'est pas tout de suite. Normalement, comme on est arrivé, on a travaillé. Les Arméniens, ils sont très connus dans la confection, dans le tricot. Voilà. Après, mon mari, il a vu une proposition pour travailler ici. Je démissionnais pour aider mon mari et je regrette pas. C'est ma vie ici, je sais pas. Il y a quelque chose, ça se passe ici déjà. Comme les gens, ils sont vieux, ils s'en sont comme à la maison. Ça, c'est très bien. C'est le but, sentir cette émotion. Comme on est bien, on est à la maison.
Et votre mari est en cuisine? Qu'est-ce que vous faites comme cuisine ici?
Alors, on fait un petit peu géorgienne, arménien. Un petit peu russe aussi.
C'est quoi les plats arméniens alors que vous faites ici?
Alors on fait chou farci, on fait aubergine farci, on fait soubourek, pâte fouettée au fromage, on fait grillade de poulet, c'est le mariné spécial arménien, kebab on fait. Et aujourd'hui par exemple c'est froid, ça commence la soupe. On a fait aujourd'hui borsch. Demain ça peut arriver soupe arménienne à la yaourt. Avec la boule dedans. Ça dépend le jour, ça dépend météo, on change tout le temps. C'est cuisine familiale. On n'est pas né cuisinier, on est venu cuisiner. Je demande à mon clientèle, qu'est-ce que vous voulez manger?
Zazie, vous avez pu goûter le borsch, cuisiné par Mamikon, est-ce que c'était bon?
Oui, c'était délicieux. C'était mon petit déjeuner, du coup, mais c'était très bien pour le petit-déj. Et ce jour-là, il y avait aussi des kinkali, donc c'est des raviolis géorgiens, des petits raviolis russes, les pilmeni. Et c'est ça qui est intéressant avec la cuisine arménienne, comme de nombreuses cuisines, c'est qu'elle raconte aussi une histoire géopolitique. Et on retrouve notamment dans la cuisine arménienne les influences soviétiques, caucasiennes et aussi orientales, avec des plats variés. Mais je crois qu'il y a quand même un plat qu'on retrouve tout le temps, ce sont les baklava. Donc c'est des petites pâtisseries à base de pâte filo. Il en existe différentes versions. On en a un petit peu que vous allez pouvoir goûter dans le public si vous n'avez pas peur d'avoir les doigts un petit peu gras. Et j'ai aussi indiqué sur le site de l'émission la recette que prépare mon père. Donc c'est un baklava 100% noir et sans miel.
Alors, il circule autour du plateau. Il y a même le public qui picore dans l'assiette de baklava. Qu'est-ce qu'il en pense, Antoine Gerbel?
J'ai tout de suite compris qu'il n'y avait pas de miel parce que c'est très léger. Léger.
Bon, juste avant de parler du vin, c'est bien, ça va lui casser le palais.
Exactement, merci.
Et ce restaurant, Zazie, tout le monde peut y aller, c'est ça qui est intéressant. C'est d'ailleurs un très très bon plan qu'on donne à nos auditeurs et notre public.
Oui, il est un peu caché au fond d'une cour. Moi, je mets toutes les infos sur le site. C'est assez petit, donc je vous recommande de réserver et surtout d'être très gentil avec Chinar et Mamikon.
Quel budget à peu près pour aller déjeuner là-bas, arménien?
Je pense que pour 15€, on mange bien.
Très bien, merci beaucoup Zazie Tavitian. Il y a dans vos origines familiales la partie Arménie, avec tout ce que cela comporte d'arrachement et de souffrance, mais il y a également une autre réalité, celle de la Shoah que vous avez racontée dans un roman graphique très réussi, on en a déjà parlé à ce micro, poignant, aux éditions Kalman-Lévy avec les dessins de Caroline Perron. Il s'intitule « À la recherche de Jeanne ». et il raconte l'enquête que vous avez menée sur votre arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Déportée en 1943 dans un camp d'extermination. Et vous avez décidé de vous lancer dans cette enquête après avoir découvert son carnet de cuisine. C'est donc à la fois une enquête culinaire et familiale.
Oui, et Jeanne vivait à Paris, donc c'était une Parisienne elle aussi.
C'est ça, et vous avez également signé pour nous dans On va déguster Paris un sujet sur les fermes urbaines. On va parler poire ou vinaigrette, puisque c'est un autre plat emblématique d'Agnès Udry qui figure en bonne place sur la carte du bouillon république, mais il est fait de manière un peu particulière chez vous.
En fait, le poireau vinaigrette, on travaille soit avec du poireau de créance, soit on a un approvisionnement avec le carreau des producteurs à Rungis.
Oui.
Et après, la particularité, en fait, c'est moi j'ai toujours une tendance comme ça à circuler dans Paris et à rester très curieux. Donc la recette d'origine nous vient de la Fontaine de Mars. Avec le chef Pierre Saugrin.
Ah là là, depuis 31 ans à la Fontaine de Mars, en voilà une sacrée adresse. On est rue Saint-Dominique, hein ?
Exactement.
On fait un bisou à Christiane, la patronne depuis 31 ans également.
Tout à fait. Et en fait, c'est vrai que la recette qu'on a ici s'inspire largement avec, bien sûr, les contraintes du bouillon. De ce qu'ils ont fait sur place avec les herbes, le cerfeuil, l'estragon, la moutarde, le petit trait d'huile de noix et les noisettes.
Ça ressemble à une ravigote, ça.
Exactement.
Ah, donc vous mélangez le poireau vinaigrette avec une ravigote qui d'habitude est plutôt
tout à fait
sur une tête de veau.
Tout à fait.
Parigot.
C'est ça.
La recette, il y a un peu d'huile de moutarde. Un peu d'huile de noix, de la moutarde à l'ancienne, c'est bien ça ?
Oui.
Et cerfeuil ciboulette, vous l'avez dit.
C'est ça.
La cuisson du poireau, plutôt ferme, fondant, entre les deux ?
En fait, pour le poireau, on reste toujours dans les objectifs du bouillon de ne pas perdre de matière. Donc, en fait, les vers de poireau, nous les utilisons en fondu de poireau pour les ravioles de Royan. Et sinon, le blanc de poireau, effectivement, est utilisé... Le blanc de poireau, il cuit vapeur et on le cuit une douzaine de minutes et portionné en canon de poireau.
Combien coûte votre poireau vinaigrette ici ?
À la vente, ça c'est une colle.
Si on trouve un jour, on doit être dans les
3,40
de la maison. Ça nous intéresserait d'avoir le prix. En attendant, on va vous donner l'occasion de remporter un autre livre dédicacé par toute l'équipe. On va déguster Paris. Alors, toujours le même principe. Vous levez la main dans le public. La première main qui se lève, on lui tend le micro. Il y a également deux exemplaires à gagner à la maison, évidemment, en nous envoyant un mail à onvadeguster@radiofrance.com. C'est combien le 3,40. Voilà. 3,40, le poireau vinaigrette. Ça reste... un prix tout à fait honnête, avec un poireau, vous l'avez dit, de créance, mais il vient également d'Île-de-France, et c'est ça qui est intéressant, circuit court là encore.
C'est ça, avec le carreau des producteurs.
À Rungis. Vous l'avez dit. Cher Charles, à vous de jouer.
De Piaf à Nekfeu, Paris a inspiré bon nombre d'artistes. Voici une question en chanson. Quel chanteur aimait aller boire un verre d'alcool à la Coupole pour faire du gringue à toutes ces dingues ?
Ah, madame, vous regrettez d'avoir levé la main ?
Oui, peut-être Renaud ?
Bravo !
On écoute la réponse en musique ?
Ah.
Andy Warhol à la Coupole peint les gambettes de Mistinguette. Il les dessine très longilignes, leur donne la forme du cou d'un cygne. Lewis Carroll à la Coupole parle de fillettes en salopette. Il les devine vêtues de jeans pleines de paillettes sur les pommettes. Elles me fascinent, toutes ces gamines avec leur mine de Marilyn, sortant de l'école vers la Coupole, elle caracole et elle racole. Quand vient le soir, j'aime aller boire un verre d'alcool à la Coupole. pour faire du dringue à toutes ces dingues, à toutes ces folles, bien trop frivoles. Toutes les idoles de la coupole, les midinettes, les gigolettes, les carolines en crinoline ne sont en fait que des starlettes.
Replaçons ces paroles dans leur contexte quand même, on est en 1975. N'envoyez pas trop de mails, s'il vous plaît, à la maison.
Donc c'est effectivement Renaud qui chante en 75 La Coupole, un titre hommage à La Coupole, cette brasserie emblématique parisienne du boulevard du Montparnasse dans le 14e. L'adresse a vu défiler le tout Paris, de Joséphine Baker à Elvira Masson. Jean-Paul Sartre y avait sa table, la 149. Le coquin l'aimait bien parce qu'elle était proche du vestiaire et que beaucoup de jeunes femmes passaient devant.
Eh oui, non mais c'est vrai, ça c'est pas une légende pour le coup. Hein. Il avait vraiment sa place attitrée, c'était la 149.
Et Gainsbourg, lui, sirotait un 102. Antoine Gerbel, vous savez ce que c'est qu'un 102?
Ah, je calcule bien 51 plus 51. Chez Pastis, ça fait 102.
Bravo, bravo Antoine, incollable.
Et vous n'étiez pas dans la préparation de l'émission, vous le savez vraiment, moi je l'ignorais totalement ce qu'était qu'un 102, comme
et,
quoi.
Et ça se vend au maître dans certains bistrots.
On en apprend tous les jours. On ne citera pas leur nom puisque l'alcool, évidemment, se goûte et se déguste avec modération. Stéphane Solier, on fête cette année le 100e anniversaire de la mort d'un certain Marcel Proust, sa vie, son œuvre, mais aussi ses mœurs alimentaires et gastronomiques. Sont étroitement liés à la capitale.
Oui, c'est un personnage, une personnalité de Paris qui a vécu, qui a respiré Paris. Et même s'il s'échappait de temps en temps en Normandie ou en Bretagne, c'est vraiment la capitale qui l'a nourri dans tous les sens du terme. Il y avait ses adresses, évidemment, de restaurants fétiches, il y avait ses lieux de ravitaillement, il envoyait ses dames de compagnie, dont Céleste Albaret, par exemple, et il a confectionné une sorte de carte idéale gourmande qu'on a reconstituée un tout petit peu dans le livre. On s'est amusé à exécuter une sorte de Proustopolis avec toutes ses adresses fétiches.
Il fait parler, hein, le Proustopolis. Oui. On a eu l'autorisation en plus de cette marque pour reproduire le tableau de jeu. Et c'est effectivement un pari gourmand de Marcel Proust que vous avez reconstitué.
Oui, et c'est comme ça qu'on découvre qu'il avait des habitudes très très ancrées. Il avait sa petite marmite qu'il faisait livrer à la maison de chez Larue. Il envoyait Céleste acheter des poissons chez Félix Potin. Il avait sa brioche préférée chez Rebattet. Il faisait chercher des bières la nuit. Au Ritz, par exemple, qui lui laissait ses réserves ouvertes parce qu'il avait comme ça, on sait qu'il avait, c'était un noctambule et parfois son état de santé ne lui permettait pas de sortir de chez lui. Donc un être paradoxal, oui. À la fois enfermé chez lui et en même temps ouvert sur Paris, qu'il faisait venir soit dans sa chambre, soit dans lequel il se rendait. Par exemple, il avait son salon particulier au Ritz. Toujours un peu à l'écart pour observer le monde et en même temps il y faisait venir ses amis de la République des Lettres.
Et c'est vrai qu'on pense à un écrivain reclus hein, dans sa chambre du boulevard Haussmann et en même temps il fut mondain, véritablement mondain, fréquentant le beau monde, notamment dans le quartier de la Madeleine. Hein.
Oui, il habitait pas loin de la Madeleine, donc c'était vraiment son quartier de prédilection.
Qu'est-ce qu'il y a dans nos verres, la solution de l'énigme avec notre chroniqueur vin Antoine Gerbel.
On va déguster.
8h30, c'est le casse-croûte, et puis c'est là que le Beaujolais, bon, le premier verre du Beaujolais le matin.
Sur France Inter.
Et oui, du Beaujolais, même à Paris, hein, parce que le Beaujolais, il a trouvé ses lettres de noblesse, justement, grâce à la capitale. Bien. La capitale fut une vitrine pour un grand nombre d'appellations viticoles.
Fut et est toujours une vitrine pour nos grandes provinces, comme disent les Parisiens, et les territoires aujourd'hui. Je vous rappelle que dans les années 50, les écaillés ont apporté le muscadet, tout ça grâce à des voyages, bien évidemment, le long de la Loire. Les Halles, c'est bien évidemment le Beaujolais. C'est venu de Lyon, c'est vrai, mais ça s'est très très bien installé à Paris. Les Bougnats, Les Auvergnats, c'est les vins de l'Aveyron, c'est Marcillac. Après, il y a une accélération. Le saumur champigny est devenu très à la mode dans les années 70 dans ce quartier, pas très loin des théâtres. Après, il y a le Sud-Ouest, bien sûr, qui était là, avec son Cahors, c'était à l'époque de Pompidou, avec le Magret de Canard. Il y a aussi eu aussi des épisodes moins glorieux, les pizzerias des années 70, hein, qui nous ont inondés d'un très mauvais Chianti. Et puis ici, là, on est 10, 9, 11, 12, 18, 19. C'est aussi l'arrivée dans les années 80-90, des vins bio, des vins nature, des vins sans soufre. La bistronomie qui aussi rebat les cartes du vin, puisque notamment écarte beaucoup de vins de Bordeaux, mais c'est un autre sujet. Donc à Paris, aujourd'hui, on compte à peu près 604 cavistes. Enfin, au moment où je parle, je pense qu'il y en a 605, parce que ça s'accélère. C'est une passion partagée par beaucoup de jeunes, on va dire, quadras qui rebattent un peu les cartes de leur vie. 35, 40 ans, se posent des questions. On aime le vin, on a forcément rencontré des vignerons. On dit, mais pourquoi pas devenir caviste? Alors, c'est vrai que c'est un engouement. Alors, un peu dangereux quand même, parce que plus il y en aura, ben, plus ça va être difficile d'en vivre. Les journées sont longues. Hein, vous commencez à 8h du matin. Généralement, vous faites votre chiffre d'affaires entre 19h et 19h30. Donc il faut s'impliquer dans son commerce. C'est à la fois du local et le nouveau phénomène, c'est que ces cavistes racontent leur propre histoire. Et ça, c'est très intéressant. Je vais vous parler d'un caviste, il s'appelle Mathieu Lévy. Il a monté sa cave à rue de Sedaine, dans le 11e arrondissement. Mathieu, il est ingénieur à la SNCF pendant 10 ans. On lui doit notamment ce nouveau RER qui va bientôt ouvrir dans Paris.
Rien que ça.
Et puis, il se pose beaucoup de questions sur sa vie. Il a des enfants, partagés de son temps. Il met du temps à trouver, en même temps que sa passion pour le vin, à trouver un local qui lui plaît. Un local, comme souvent, où on n'a pas seulement que du vin. Vous avez un petit coin librairie, vous avez quelques charcuteries, vous avez des coups de cœur, en fin de compte, des lieux vraiment de vie, de quartier. Il vous attend, il vous parle, vous venez avec cette simple question, ce soir on fait une raclette, qu'est-ce que je prends? Et puis lui, il développe, il vous parle de vigneronne. Et ça, c'est assez original, c'est que, j'ai évoqué le vin bio, le vin biologique est une grande tendance. Aujourd'hui, c'est encore plus pointu. Lui, il a décidé de ne mettre en avant que le travail de vigneron. C'est un prisme, mais c'est pas un prisme gratuit parce que les vins sont très bons. Et puis, voilà, vous avez envie d'accompagner aussi ces gens qui sont passionnés par le métier. Alors, je vous ai mis dans votre verre son coup de cœur du moment. On a deux verres de vin rouge, c'est le vin le plus foncé. Alors pour nos auditeurs, je rappelle qu'on boit dans un verre à peu près impossible pour la dégustation, mais très mignon qu'on
a fait. Le fameux verre ballon
qu'on trouvera au bouillon.
Et là, bien envoyé.
Et cette cuvée, alors c'est une jeune femme qui s'appelle Gwenaëlle Lebars. Elle revient dans son pays qui est la Provence. Elle a acheté, pas beaucoup de moyens, quelques vignes du Merlot, qui est pas un cépage vraiment destiné à la Provence. Elle va commencer à le surgreffer. En ce moment, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire vous prenez un pied de vigne, vous le coupez et vous pouvez rajouter comme une autre vie, un autre cépage. Et elle appelait ça in media res, c'est-à-dire vraiment au milieu des choses, parce que je pense qu'on va boire ce vin pendant une année, puis les cépages vont être surgreffés. Et donc, demain, cette cuvée, elle va changer de nom, parce qu'elle aura changé de cépage, sûrement du Grenache, et surtout du Cinsault, qu'elle aime beaucoup. Voilà ce genre de découverte qu'on peut faire aujourd'hui chez ce caviste. Je rappelle le nom, qui s'appelle Semele. Donc, si on continue dans les filiations grecques et latines, de mémoire, je crois que c'était la mère de Bacchus, non, c'est ça?
Bacchus, exactement.
Voilà. Et puis, on va terminer cette chronique. Parce qu'il y aura forcément un numéro 2 dont on va déguster Paris, c'est certain. Et je pense que
vous avancez un peu, Antoine Germain.
Oui, mais je pense que cette prochaine émission, dans quelques temps, elle se fera peut-être autour du vin que vous avez dans votre second verre.
Alors là, c'est une curiosité.
Beaucoup plus clair, vous remarquez tout de suite, beaucoup plus fruité. Et ça, j'avoue, je ne pensais vraiment pas de mon vivant avoir un coup de cœur pour un vin né en Seine-et-Marne. Puisque c'est un vin... Je suis natif de Coulommiers en Seine-et-Marne. Je sais qu'au bord des coteaux du Grand, du Petit Morin et de la Marne, bien évidemment, il y a eu de la vigne. Mais effectivement, ça c'est un très beau tout premier vin. La vigne a 3 ans. C'est les coteaux du Mont-Guichet. C'est un Pinot Noir. Alors c'est un fou furieux Pierrick Petit qui s'est lancé dans cette aventure il y a 5 ans. Et non seulement c'est fin, c'est bon, c'est très joliment habillé, mais ça raconte aussi le grand bouleversement des vins franciliens, où on connaît Suresnes, on connaît les vins intramuros de Paris.
Et même à Montmartre, hein.
Et à Montmartre, voilà, on va pas en faire des tonnes sur les vins de Montmartre. et je rappelle simplement que Chelles, donc c'est à 20 minutes du périphérique. Qu'en Seine-et-Marne, à l'autre bout, à l'est, vous avez déjà des vignes de la Champagne, toujours du côté de la Ferté-sous-Jouarre. Donc il y a quelque chose qui est en train de se rejoindre, une très belle histoire viticole française.
Et d'ailleurs, Stéphane Solier, il y a eu de très belles et une très longue tradition viticole justement dans le bassin parisien.
Ah oui, je me suis appuyé sur les dernières recherches archéologiques. On a découvert en 2015 dans l'Oise des traces de viticulture du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc on savait que les habitants de Lutèce, de la Lutèce antique, consommaient du vin, parce qu'on avait beaucoup d'amphores, mais c'était du vin qui venait du sud. Et en fait, très vite, ils se sont pris au jeu. Et à partir du 2e siècle, on a commencé à avoir une production francilienne. Et on a même un témoignage au 3e siècle, 4e siècle, d'empereurs qui s'installaient sur l'île de la Cité, qui vantaient la qualité des vins de Lutèce. Donc on a, c'est une histoire ancienne. Alors la grande histoire ensuite va venir au Moyen-Âge par l'abbaye de Saint-Denis, mais aussi sous Saint-Louis, il va y avoir une vraie production de vin françois. Pour les distinguer des vins d'Auxerre ou de Bourgogne qui n'étaient pas françois. Et ces vins, les rois vont interdire le débarquement des vins étrangers à Paris et sur les quais de la Seine, et il va y avoir une surproduction qui va faire connaître les vins françois ailleurs que à Paris, et notamment dans les Flandres et en Angleterre, où la réputation de ces vins-là va se faire. Donc l'histoire est longue. Ensuite, il y aura bien sûr des problèmes
les grandes de production, des problèmes de production, l'urbanisation qui aussi a mis à mal évidemment la viticulture francilienne. Il semblerait que le mot guinguette, qui désigne cet établissement populaire que l'on connaît bien, que l'on trouve notamment sur les bords des affluents de la Seine, cet établissement où l'on mange, où l'on boit et où l'on danse, viendrait de guinguet, qui serait ce petit vin blanc d'origine francilienne justement, qui permettait de rafraîchir le gosier. Hein.
Oui, et puis guet, vous retrouvez ça, c'est vraiment une terminaison sur nombreux cépages qui voyagent. Puis après, il y avait la Champagne qui était pas loin, qui est venue, puis les Bourguignons quand même, qui essayaient aussi d'imposer leur vin.
Stéphane Solier, on évoquait une vigneronne, évidemment. La cuisine à Paris, c'est aussi une histoire de femme.
Ah oui, toute l'histoire de la cuisine à Paris est traversée par des destins de femmes. J'avais envie un peu comme ça de piocher très rapidement, de picorer, mais on ne peut pas ne pas penser aux marchandes des Halles, celles qu'on appelle les dames des Halles, parmi lesquelles on élisait une présidente qui était chargée de faire visiter, d'accompagner les grands dignitaires, rois, souverains ou présidents qui venaient visiter les Halles. Elle symbolisait bien sûr cette force de travail. Dans le terroir francilien, c'était beaucoup les femmes qui travaillaient dans les champs. On peut penser à des auteurs de livres de cuisine. On a dédié un double portrait à Françoise Bernard et à Ginette Mathiot, qui sont des championnes de l'édition culinaire. Et
toutes les deux parisiennes, effectivement.
Toutes les deux parisiennes. Allez, j'ai envie quand même de rappeler que Paris a été un terrain de jeu pour de grandes écrivaines gourmandes, Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, qui ont chanté...
Françoise Sagan,
qui a plus chanté les plaisirs de la boisson, de l'alimentation.
Oui. Et de produits stupéfiants aussi.
En tout cas, si on reste sur Colette, elle a vraiment chanté la diversité, la richesse de la cuisine parisienne. Et je peux aussi penser à Marthe Distel, qui a fondé l'école du cordon bleu en 1895. C'était une journaliste et elle a pensé créer ses ateliers de cuisine pour les lectrices de sa revue. Et ses cours sont devenus à l'international une vitrine de la formation parisienne.
Voilà, la gastronomie parisienne grâce au concours des femmes qui ont été très nombreuses à bâtir ce patrimoine culinaire. On finit par une petite touche sucrée car le dessert emblématique, je sais pas si c'est le best-seller au rayon dessert, c'est
un des best-sellers, le profiterole.
Ah, alors c'est le ou la profiterole, le professeur de français?
Je crois qu'on le met au pluriel, exactement.
Les.
Ah bah bravo. Le profiterol, on va dire. Non, mais je sais plus.
Les.
Voilà, les profiteroles. Comment, à quoi ressemble-t-il au bouillon République?
En fait,
Daniel Udry.
Au bouillon République, on travaille sur un seul chou. Rentabilité oblige. En fait, pour le chou, on a même pareil sourcé une machine qui nous aide à dresser la pâte à choux. On fait à peu près 600 choux par jour qu'on fabrique ici, qu'on achemine aussi au bouillon Pigalle. Et en tout cas, le profiterol qui est ici, qui est un seul chou assez gourmand. Et composé avec une glace à l'italienne qui est dressée au moment, et puis une sauce chocolat de qualité, uniquement composée avec un chocolat 59%, de l'eau et un peu de beurre.
Vous en envoyez combien par jour ?
Ici, on doit en envoyer à peu près 300.
Et le ou la profiterole, les profiteroles sont évidemment un dessert de la famille des pâtes à choux, la pâte à choux étant elle-même une grande technique pâtissière inventée,
Paris.
Encore à Paris,
adapté d'une technique très très ancienne, mais améliorée à Paris.
Signalons, Stéphane Sollier, que nous sommes, vous et moi, avec notre historien de la bande, Loïc Bienassi, les trois co-commissaires d'une exposition qui va se tenir en 2023 à la Conciergerie à Paris, en partenariat avec notre chère radio France Inter. Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen-Âge à nos jours, une exposition qui se veut à la fois érudite, interactive et familiale, et qui se tiendra donc dans ce lieu emblématique de Paris, la Conciergerie, à partir du 12 avril jusqu'au mois de juillet. Et puis je rappelle le titre de notre ouvrage, On va déguster Paris, qu'on va dédicacer dans un instant au Bouillon République, aux éditions Marabout et Radio France. Je remercie Stéphane Sollier, Charles Patin, Okun, Camille Menson et Marielle Gaudry, en plus des 150 contributeurs qui nous ont aidés à faire ce livre. Je serai également à Uzès, dans le Gard, ce jeudi 15 décembre pour une dédicace de 16h à 18h à la librairie de la Place aux Herbes, suivie d'une rencontre à 19h à Lombrière. La semaine prochaine, nous serons à quelques jours des fêtes. On va célébrer Noël tout en douceur. Un Noël qui va être alsacien, justement, avec vous. Non pas avec vous, mais avec Christophe Felder et Camille Le Sec. Et un immense merci au Bouillon République et à vous, cher public, pour votre accueil. Merci. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.